que nous arrivons à la fin de la leçon numéro 96 d'English USA. Où travaillez-vous? Où aimerez-vous travailler? Where do you work? And where would you like to work? Describe a profession that interests you. Décrivez un métier qui vous intéresse. Describe a profession that interests you. Describe the skills involved. Décrivez les spécialités et les dons qui sont importants à ce métier. Practice hard. Until next time, goodbye. Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous, heureux de vous retrouver pour un dernier tour de l'actualité en ce samedi 22 novembre 2014. Au Burkina Faso, le président intérimaire Michel Kafando a annoncé hier que des enquêtes seraient effectuées pour identifier le corps du président Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors du coup d'État qui installa au pouvoir Blaise Compaoré. La famille Sankara n'a jamais cessé de demander, depuis 1997, l'exhumation du corps de Thomas Sankara afin de confirmer que le corps inhumé est bien celui de Sankara. Pendant ce temps, le pays attendait ce samedi de connaître son gouvernement pour une transition d'un an, un test majeur sur le rapport de force entre le président intérimaire Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Un officier proche du lieutenant-colonel Zida confié à l'AFP que c'était l'heure des ultimes petits réglages. Le Mali a enregistré un nouveau cas d'Ebola. Dans un communiqué émis samedi, le ministère malien de la Santé a indiqué que cette personne a été admise dans une unité de soins intensifs à Bamako. Parmi deux cas suspects qui étaient en cours de test, l'un a été déclaré négatif, l'autre positif. Ce dernier a été placé en centre d'isolement pour un traitement intensif, d'après le communiqué. 310 personnes susceptibles d'être contaminées par Ebola sont sous surveillance médicale, selon le même communiqué. Le Mali, dernier pays à avoir été contaminé par Ebola, enregistré 7 décès dus au virus de la fièvre hémorragique. D'après des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé publiés hier, l'épidémie de fièvre Ebola a fait 5 459 morts sur plus de 15 000 cas répertoriés dans 8 pays. Les islamistes somaliens ont exécuté ce samedi 28 passagers d'un autobus dans la région de Mandera. Nous parlons d'Al-Shabaab, le groupe Al-Shabaab, donc dans la région de Mandera, dans le nord-est du Kenya. Les assaillants ont tendu une embuscade aux véhicules à la sortie de Mandera, ville frontalière avec la Somalie. Ils ont ensuite contraint les 60 voyageurs à descendre de l'autocar afin de séparer les musulmans des non-musulmans avant d'abattre ces derniers. La Fédération internationale des droits de l'homme a demandé ce samedi la libération immédiate de 2 militants rwandais des droits de l'homme arrêtés hier au Rwanda. La FIDH a dénoncé ce qu'elle appelle une mainmise des autorités rwandaises sur l'ONG. D'après l'AFP, Daniel Uwimana et Evariste Sabeyuzu, deux membres de la Ligue rwandaise de promotion et de défense des droits de l'homme, la LIPRODOR, affiliée à la FIDH, sont accusés d'usage de faux documents. Selon l'actuel secrétaire exécutif de la LIPRODOR, la lettre réclamant la convocation d'une assemblée générale comportait des signatures falsifiées. Le vice-président américain Joe Biden et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté d'une éventuelle transition de pouvoir en Syrie, dans un schéma où l'actuel homme fort de Damas, le président Bachar al-Assad, ne figurerait plus. Les deux hommes ont également parlé de la lutte contre le groupe djihadiste l'État islamique, qui sévit en Irak et en Syrie. Au cours de sa visite de 3 jours en Turquie, le vice-président américain tentait de persuader les dirigeants turcs à jouer un rôle plus important dans la lutte internationale contre les combattants de l'EI. Cette organisation terroriste contrôle de larges pans de territoire en Irak et en Syrie. Par le passé, le président turc avait insisté sur le fait que si les États-Unis voulaient de l'aide de son pays, il devrait se concentrer moins sur le combat contre les extrémistes de l'EI, mais plus sur le président syrien Assad, qui, selon lui, doit être contraint à quitter le pouvoir. Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce samedi que la Turquie continuerait à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis, avant de qualifier la visite de M. Biden de très significative. Au Bahreïn, les électeurs se rendaient aux urnes ce samedi pour élire leurs députés à l'occasion des premières élections générales depuis la contestation anti-régime de 2011, qui sont boycottées par l'opposition chiite de ce petit royaume du Golfe, allié des États-Unis. Au terme d'une campagne terne des candidats, pour la plupart sunnites, la majorité chiite s'est fortement mobilisée pour assurer la réussite du boycott décidé par l'opposition qui ne cesse de dénoncer la répression et milite en faveur d'une véritable monarchie constitutionnelle.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La bordure sud-ouest du désert du Sahara, qui comprend des parties de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, est connue comme le Sahel. C'est un écosystème aride, extrêmement fragile, qui même dans une bonne année a du mal à produire suffisamment de nourriture pour sa population. Le Sahel a souffert de crises d'insécurité alimentaire qui ont touché des millions de personnes en 2005, 2009, 2010 et 2012. C'est un cycle sans fin dans la région qui ne peut être empêché, mais peut être atténué. Avec des taux élevés de malnutrition des enfants, même sous les meilleures conditions, une mauvaise récolte peut exposer de millions de personnes à de sévères risques. Et nous savons qu'en cas de sécheresse, d'inondation ou d'invasion de criquets, les populations les plus vulnérables sont inévitablement les plus durement touchées, souvent sans la possibilité de récupérer avant de connaître de nouveaux chocs, a déclaré l'administratrice adjointe de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, Nancy Lemberg, lors du lancement du plan d'intervention humanitaire des Nations Unies au début de février. Pour coïncider avec cette occasion, les États-Unis, à travers l'USAID, ont lancé un nouveau programme, Résilience améliorée au Sahel, ou RISE, un effort étalé sur 5 ans, et visant à renforcer la résilience dans les zones ciblées au Niger et au Burkina Faso. L'USAID s'engage à verser plus de 130 millions de dollars au cours des 2 premières années de cette initiative. Selon l'administratrice adjointe Lemberg, le programme donnera à environ 1,9 million de personnes les plus vulnérables de ces zones une chance de briser le cycle de la crise pour échapper à la pauvreté chronique et réduire leurs besoins d'aide humanitaire à l'avenir. Dans le même temps, l'USAID est en train de fournir un supplément de 85 millions de dollars en aide humanitaire en réponse à l'insécurité alimentaire aiguë au Mali, au Niger et au Tchad. Dans le Sahel, la population devrait doubler d'ici à 2050. Les défis augmentent de plus en plus. Les enjeux sont élevés et le temps n'est pas de notre côté, a déclaré l'administratrice adjointe Lemberg. Satisfaire les besoins de ces populations et travailler ensemble pour réduire ces besoins à la base sont des éléments essentiels de toute stratégie visant une plus grande sécurité alimentaire et la réalisation de l'objectif du président Obama et notre engagement global partagé de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.